Cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe, le 13 mars 2001 à Saint-Jean-d'Arc.
Je réponds à deux questions. Vous avez parlé de la contemplation métaphysique en disant qu'elle est plus présence que vision. Y a-t-il une analogie à faire avec la contemplation artistique? C'est pas la même. La contemplation artistique, je ne contemple pas Dieu parce que je ne l'ai pas fait. La contemplation artistique, c'est sur les qualités. Je crois que la contemplation artistique est saisie par les qualités, la lumière, qui est la qualité suprême de notre monde physique. La contemplation artistique a toujours un lien avec le sensible. C'est le sensible qui est spiritualisé dans la contemplation artistique. Alors, il y a la contemplation artistique de celui qui est artiste sans avoir fait son œuvre, qui admire la nature, qui contemple la nature, qui contemple la vie. Et puis, la contemplation de l'artiste de son œuvre. Vous voyez ? Alors, il y a une analogie, puisque on peut parler d'une certaine contemplation artistique. Et on emploie le mot contemplation, théoria. Mais la théoria métaphysique, la contemplation du philosophe, c'est par rapport à l'être premier, Dieu créateur. C'est la sagesse de Dieu, l'effet de la sagesse de Dieu qu'il contemple. Et c'est aussi l'auteur de cette sagesse, Dieu créateur. C'est le Dieu créateur que je contemple. Donc, cette contemplation ne quitte pas l'être existant, l'être en acte. L'être en acte en Dieu, dans le Créateur, est ce qui attire mon intelligence, la séduit et attire mon cœur, attire l'amour. C'est à l'intérieur de cet amour que se fait cette contemplation métaphysique. Et ce n'est plus une connaissance abstraite. Il n'y a pas de contemplation de l'abstraction. Ce n'est plus une contemplation abstraite. La contemplation, du moins, c'est une contemplation, donc elle n'est pas abstraite. Il n'y a pas de contemplation de l'abstraction. L'abstraction, elle nous sert, elle nous aide à mieux comprendre le réel. Et nous revenons toujours au réel pour le contempler. Seul le réel existant, qui est Dieu, est contemplé. La contemplation exige un certain absolu dans l'acte d'être, une nécessité dans l'existence, quelque chose d'absolu. Et alors, la contemplation artistique, présupposant l'amour, et étant à l'intérieur de l'amour, donc dans une connaissance qui n'est pas abstraite, qui est affective, mais affective, pas affective sensible, affective dans le sens de l'amour spirituel, l'amour que j'ai de la vérité, l'amour que j'ai de l'être premier, où il y a un amour naturel à l'égard de Dieu. Et c'est cela qui soutient et qui permet cette contemplation qui est au terme d'une connaissance analogique. La connaissance analogique de l'être n'est pas abstraite, elle est séparée. Elle n'est pas abstraite, ce n'est pas une connaissance univoque. C'est une connaissance qui porte sur une réalité singulière, existante. L'autre question, dans la lumière de ce que vous avez dit de la contemplation métaphysique, philosophique, que l'amour permet de dépasser l'inclination de l'intelligence, de dépasser à l'assimilation, pouvons-nous, c'est même au-delà de l'assimilation, parce que je n'assimile pas Dieu, c'est la présence, hein, ce que je vous disais. Donc c'est au-delà de l'assimilation et au-delà de l'inclination de l'intelligence. C'est au-delà de ces deux devenirs de l'intelligence et de la volonté. Le devenir de l'intelligence, c'est l'assimilation, et le devenir de l'amour, c'est l'inclination. Or, la contemplation est au terme. Je ne recherche plus dans la contemplation. Je m'arrête. Je suis pleinement en acte. Mais il n'y a plus de devenir. Il y a l'arrêt de l'intelligence. Et cet arrêt de l'intelligence se fait grâce à l'amour. Puisque Dieu, je suis plus proche de lui par l'amour que par l'intelligence. Donc l'intelligence a suffisamment d'intelligence pour comprendre, pour se laisser dépasser par l'amour. Et se laissant dépasser par l'amour, j'ai une présence. Et c'est cette présence qui permet justement cet arrêt contemplatif, cet acte contemplatif. La présence implique le jugement. Je suis présent à quelqu'un dans l'amour. Vous pouvez prendre l'analogie de la présence de l'ami. Non, tu es là. Et cette présence de l'amour, de l'ami, c'est beaucoup plus que la connaissance, l'assimilation. C'est un arrêt. Un arrêt qui m'a grandi, qui fait sortir de mon mode habituel de connaissance. Je continue. Que l'amour permet de dépasser l'inclination de l'intelligence à l'assimilation. Pouvons-nous dire que déjà, dans la partie scientifique de la philosophie première, il y ait ce besoin de l'amour pour le jugement sur l'ami ou l'inclination à la sagesse, puisque la connaissance de l'être ne peut pas être dans une assimilation. Je crois que dans l'analyse philosophique, c'est la recherche de la substance, c'est la recherche de l'acte. Dans cette recherche, l'intelligence est au-delà de la raison, puisque on est en pleine connaissance analogique, mais c'est une connaissance pure. Ce n'est pas une connaissance affective. La connaissance affective commence pour la recherche, existe-t-il un être premier ? Existe-t-il une personne première ? De sorte que je ne dirais pas que la connaissance, l'affectivité, l'amour soit présent dans l'analyse. L'induction, c'est l'intelligence. Mais l'intelligence, vous voyez, pour bien comprendre, je mettrai. Il y a un premier degré de l'intelligence, une connaissance univoque, toujours un peu analogique. Il n'y a pas de connaissance purement univoque. Ça n'existe pas. La preuve, c'est qu'il y a l'universel générique, l'universel spécifique, l'universel de la différence du propre et de l'accident. Ils sont cinq. La connaissance univoque, l'universel, il y a cinq modalités. Ces cinq modalités de l'universel montrent que déjà, dans la connaissance universelle, il y a quelque chose de l'analogie. Puisque ces cinq sont un. Cinq modalités de connaître univoquement la réalité. Le genre, animal, différence spécifique, rationnelle, synthèse de deux, animal raisonnable, l'homme, propriété, capable de rire, accident, des yeux bleus, texte accidentel, c'est pas une propriété. Des yeux noirs, les yeux. Oui, les cinq se tiennent. Et c'est l'intelligence raisonnable, mais l'intelligence est présente dans la raison. Alors, c'est la connaissance scientifique qui se fait parfaitement dans la géométrie, dans l'arithmétique, connaissance mathématique. Les connaissances mathématiques, c'est des connaissances univoques, mais avec une certaine modalité. Et ça se termine à la relation. L'être mathématique est rationnel, fonctionnel. Vous avez ensuite la connaissance philosophique. Cette connaissance philosophique, elle se fait par une recherche des causes. Alors cette connaissance est dans l'ordre pratique, la philosophie de l'art, la connaissance, la philosophie morale, la philosophie politique, et puis dans l'ordre spéculatif, la philosophie de la nature, la philosophie du vivant et la métaphysique. Donc en métaphysique, on est dans une connaissance, j'allais presque dire, super analogique. Et puis vous avez une dernière connaissance, théologie naturelle. C'est nettement, il y a trois aspects la connaissance scientifique, elle se multiplie énormément. Et les sciences, plus elles se creusent, elles se diversifient. Et vous avez des tas de connaissances nouvelles, scientifiques, dites scientifiques. En réalité, elles ne cherchent pas les causes, elles cherchent les lois. La connaissance des causes et la contemplation. Dieu, vous ne pouvez pas l'analyser. Mais vous pouvez le contempler. Et pour la contemplation, il faut que l'amour vienne soutenir, envelopper le point de vue de l'intelligence pour une présence. Et un arrêt. Dans la connaissance analogique de l'analyse, il y a quelque chose semblable à la connaissance scientifique. C'est une connaissance analogique. Mais la recherche est constante. Vous ne pouvez jamais dire que la découverte de la substance, la découverte de l'acte, c'est une chose faite. J'entendais certains dominicains théologiens disant « J'ai fait ma philosophie ». J'avais envie de dire non. Êtes-vous philosophe, oui ou non? Si vous êtes théologien, vous devez être philosophe. Et ne dites pas « J'ai fait ma philosophie ». La philosophie, c'est la vie de l'intelligence. Mais quand je suis en théologie, je suis chrétien, mais je reste intelligent. Du moins, j'espère. Il n'y a pas d'arrêt. La vie de l'intelligence, la vie de la foi n'arrête pas l'intelligence. Au contraire, elle l'appelle. Mais très souvent, on n'entend pas l'appel de la foi qui demande à l'homme d'être intelligent pour être un théologien. Un théologien, c'est un homme croyant et intelligent. Un philosophe, c'est un homme intelligent. Un savant, c'est un homme scientifique, précis, dans une recherche des lois et pas des causes. Et vous comprenez alors comment la connaissance scientifique, la connaissance, la théologie naturelle est une connaissance sapientiale, de sagesse. Vous avez la science analyse, la sagesse contemplative. Alors je comprends comment saint Thomas a dit que la sagesse habitus contemplativus. Tout ce que je peux connaître par l'analyse, vous voyez, je ne le contemple pas d'une façon sagesse. C'est Dieu que je peux seul contempler pleinement. Et je peux, ayant contemplé Dieu, éclairer toute ma philosophie dans la lumière de ma sagesse, de la sagesse, dans la lumière de Dieu. Je peux, au point de vue philosophique, regarder l'homme comme la créature la plus parfaite que je puis connaître. Oui, alors je regarde l'homme comme une créature. Regarder l'homme comme une créature au point de vue philosophique, c'est un regard de sagesse. Parce que je le regarde dans la lumière du Créateur. Tandis que je regarde l'homme d'abord comme une réalité admirable, étonnante, époustiflante. quelque chose de formidable. On ne sait jamais ce qui peut sortir de l'homme. Et c'est très différent comme regard. C'est un regard qui est très important, ce regard philosophique. Et un regard de sagesse est ultime. Je ne connais vraiment les choses philosophiquement que quand je regarde dans un regard de sagesse. Puisque la philosophie peut aller jusque-là, elle doit aller jusque-là. Et si elle ne veut pas jusque-là, elle s'arrête en chemin. C'est toujours ennuyeux. Alors nous allons maintenant regarder le dernier moment où je regarde l'être en acte dans le devenir. Alors là, c'est très important. Et c'est vrai, le devenir existe. Si le devenir existe, il est en acte. Et il est dans le devenir. Alors, par là, vous voyez, par là, j'ai une certaine expérience. Hein, comprenons bien. Au sens rigoureux, je n'ai pas d'expérience de l'être en acte. Mais j'ai une certaine expérience du devenir. Ça, je ne veux pas nier. Hein. L'expérience du devenir de la nature, l'expérience du devenir des œuvres d'art. Je regarde le Panthéon qui est en train de se détruire. C'est significatif. On fait attention, mais il se détruit. Je regarde une vieille maison dont les poutres commencent à affaiblir. Toutes mes expériences sont des expériences du devenir. Toutes mes expériences. Mais dans le devenir, mon intelligence, je dis bien mon intelligence, atteint, touche, Timgain, toucher, elle touche l'être en acte. C'est ça qui est extrêmement curieux et extrêmement intéressant. Et ce toucher fondamental, qui est la connaissance la plus fondamentale que j'ai, je ne peux pas en avoir une connaissance intellectuelle plus fondamentale que celle-là. Jugement d'existence, ceci est. Du petit crapaud, il existe. Existe, mais je ne sais pas combien de temps. Parce que peut-être que demain, quand je repasserai, il sera mort. Et la mort, qu'est-ce que c'est? C'est que ce petit crapaud, il ne vit plus. Il n'a plus d'unité. Alors, il va dans tous les sens. C'est vrai, quand je regarde son cadavre, il s'en va dans tous les sens. Chacun qui vient chercher quelque chose au cadavre, la dépouille, rien ne se perd dans la nature, rien ne se perd. C'est une chose extraordinaire. On a besoin du cadavre pour vivre. Mais ce n'est pas une finalité, vous voyez. Alors quand il n'y a plus de finalité, on ne sait pas très bien si l'homme est fait pour vivre ou pour mourir. Et c'est vrai, quand il n'y a plus de finalité, après tout, il est fait pour vivre et pour mourir. Alors par le fait même, le tuer, c'est un changement d'étape, c'est tout. C'est pas dramatique. Il est aussi bien fait pour mourir, puisqu'elle est capable. Donc Jacques tue sa capacité, il meurt. Parce qu'il n'y a plus de finalité. Et notre monde est comme ça. Il n'y a plus de finalité. Alors, expliquer que c'est un meurtre de tuer un enfant, mais il est fait pour eux. Il est gênant. Il empêche à ceux qui vivent d'être pleinement eux-mêmes. Alors, il vaut mieux l'écarter. Comme dans une forêt, vous taillez un arbre pour qu'il pousse, et quand il est arrêté par l'autre, vous coupez. On devient sauvage comme ça. Le monde est sauvage et cruel par le fait même. Alors, essayons de comprendre, parce que ça c'est capital pour nous. C'est capital de saisir ce moment particulier, cette expérience que nous faisons du devenir. Tous faisons l'expérience du devenir. Et ce devenir, quand il est pour l'homme, c'est son histoire. Nous avons tous une histoire. Cette histoire est intéressante pour les autres ou elle est complètement ignorée pour les autres. Ça n'a pas d'importance. Hein. Mon histoire, elle vaut la peine d'être vécue par moi. Elle est vécue par moi. Vécue par les autres, c'est secondaire. Hein. Elle est vécue par les autres dans la mesure où j'atteins les autres, je les modifie, j'agis sur eux, dans la mesure où j'écris pour eux, il y a des documents qui restent. J'atteins la vie de l'autre par les documents, les traces. Et j'en fais l'histoire. Il y a deux connaissances différentes. Hein. Il faut toujours se rappeler ça. La connaissance directe que vous avez de l'expérience de quelqu'un, d'un ami. Et c'est vis-à-vis de l'ami que votre expérience du devenir est la plus parfaite. Vous comprenez parfaitement le devenir de l'ami et votre propre devenir. Vous avez conscience de votre propre devenir. Ce matin, vous existiez. Qu'est-ce que vous avez fait depuis ? Hier, vous existiez. La connaissance d'hier, au point de vue existentiel, vous pouvez plus la prendre. Vous la connaissez par les traces, uniquement. Vous avez logé à tel endroit, ça demeure ça. Mais c'est quand même pas une connaissance directe de vous. C'est une connaissance des traces, des effets. Alors, vous voyez, je vois que le devenir de l'ami, je le connais. C'est la rencontre avec l'ami. Je connais la rencontre avec l'ami. Ça peut très bien rester une rencontre superficielle et une rencontre profonde. On fait tous cette distinction immédiate, hein. Je rencontrais, c'est resté très superficiel. On était content de se revoir, mais pas plus. Au contraire, j'ai rencontré cet ami et on s'est rencontrés profondément. On a dépassé le point de vue extérieur. Qu'est-ce qu'on a touché ? On a touché sa vie profonde. Pas encore son être, hein. Sa vie profonde. Ses malheurs. Sa gloire. Ce qu'il fait. Ce qu'il tracasse. Ce qui l'empêche d'être parfaitement lui-même maintenant. Je rencontrais sa vie. Et si vous allez un peu plus loin, vous direz, je rencontrais la personne, son être. Ah, est-ce que je peux dire que j'ai rencontré son être ? J'ai découvert ce qu'il était. À travers ce qu'il m'a dit, j'ai découvert ce qu'il était. Et vous direz ça, j'ai découvert ce qu'il est, cet ami. Je ne l'avais pas découvert avant. J'étais resté à ses activités et j'ai découvert ce qu'il est. À ce moment-là, j'ai découvert sa personne, ce qu'il est. Je vois très bien ce qu'il est, jaillit au-delà de ses activités, au-delà de ce qu'il fait, au-delà de son action et de ses passions, il est. Et il est grand. Il est. Il dépasse toutes ses activités. Il dépasse tous ses tourments. Il demeure de plus en plus lui-même. Je touche ce qu'il est. Mais est-ce que je peux dire que j'en ai expérience ? J'ai l'expérience de son devenir physique. J'ai l'expérience de sa santé. J'ai l'expérience de son amour, de ses souffrances. J'ai l'expérience de ce qu'il fait. C'est un artiste, j'ai vu ce qu'il faisait. Et j'ai rencontré sa personne. Au-delà de tout cela, j'ai découvert ce qu'il est. Là, vous voyez, ça montre bien que l'être est donné. Pour moi, quant à moi, il est né en premier lieu dans l'expérience du devenir. Radicalement. Il est né en premier lieu dans l'expérience du devenir, dans l'expérience que j'ai de son devenir. Et si j'ai le temps, si je suis suffisamment éveillé, j'ai découvert en lui sa personne, son être. C'est par la personne que je découvre son être. Je découvre qu'il est. Et je peux à ce moment-là poser ce jugement d'existence. Il est. Ceci est. Je peux le faire à l'égard de toutes mes expériences. Toutes mes expériences me permettent de découvrir l'être. C'est ça qui est extraordinaire. Hein ? Toutes mes expériences sont toujours dans le devenir, dans la croissance, dans le devenir. Toutes. Parce qu'elles sont toujours dans le temps. Mais au-delà de cette expérience, de ce toucher, de cette vision de mes sens sont faits pour toucher sentir ce qui devient. Est-ce que ma sensibilité touche l'être ? Poser la question, hein. Est-ce que mon toucher, mon ouïe, mes yeux touchent l'être? Ou est-ce que je reste uniquement au niveau des manifestations sensibles? La manifestation sensible. Et ce n'est plus les sens, c'est l'intelligence à travers les sens qui atteint ceci est. Vous voyez, c'est extrêmement important de faire ces distinctions-là. Nous pouvons tous la faire, mais c'est une distinction qui est formidable. La distinction du devenir qui m'est donné par le sensible, qui est lié au sensible, le sensible devient. Et le sensible devient, pour devenir, il est donc aussi l'être. Il est un être passager, puisqu'il devient. Le paysage change complètement. C'est du soleil, c'est un peu soleil. C'est passager. Et pourtant, c'est la même nature. Et si je suis chrétien, je dois dire que pour l'Eucharistie, le pain consacré est exactement le même s'il est consacré ou non consacré. Et il est totalement changé pour le croyant. Pour cette super intelligence qu'est la foi, où le jugement d'existence du chrétien, le corps du Christ, à travers, au-delà de la sensibilité du pain, du vin. Le pain et le vin n'ont pas changé. Vous voyez comme c'est important de pouvoir faire ces distinctions. La foi l'être dans sa relation avec Dieu. La foi est toujours une connaissance sapientiale. Je ne peux pas croire sans la référence immédiate à Dieu dans l'ordre de l'existence. Et je continue, la sensibilité est la même. Celui qui croit ou qui ne croit pas, il voit l'hostie. C'est la même. La sensibilité ne change pas. Mais le jugement d'existence, la foi est un type de jugement d'existence. Mais un jugement d'existence assez particulier, puisque ce n'est pas l'être en lui-même, mais l'être dans sa référence avec Dieu. La foi est une connaissance sapientiale. Dieu est toujours présent. Et pour l'Eucharistie, c'est particulièrement net. C'est le corps du Christ. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que Si vous n'arrivez pas à distinguer l'être et le devenir, votre foi ne repose plus sur quelque chose que vous pouvez constater. Vous l'acceptez, vous l'acceptez. Vous acceptez, oui, ma foi. Et vous ne voyez pas l'analoguer, la chose qui existe entre le devenir, l'apparence et la réalité profonde. C'est très important, vous voyez. Le théologien ne peut rien faire sans le jugement de foi. Sans son jugement qui touche le mystère. Tous ses raisonnements sont à l'intérieur de ce jugement. Le philosophe ne peut absolument rien faire sans le jugement d'existence. S'il n'y a plus le jugement d'existence, donc il n'y aura plus que la sensation. Les sensations extérieures, ou une acceptation de ce que les sages ont dit. Aristote a dit ça, Platon a dit ça, Marx a dit ça, mon professeur a dit ça. Alors, quel est ce genre de connaissance ? C'est une opinion. L'opinion repose sur l'autorité d'un document. J'ai découvert un vieux document du XIIe siècle. On dit ça. Ça repose sur le document. Toute votre connaissance historique repose sur le document. Vous dépassez là la connaissance sensible puisque vous essayez de saisir ce qui a été dit. Mais voyez, ce document, vous l'interprétez. Il a été écrit au XIIe siècle par quelqu'un de très intelligent. Il a été écrit au XIIe siècle par un paysan. Vous ne lisez pas de la même façon la lettre d'un paysan du XIIe siècle et la lettre d'un savant, d'un philosophe, d'un théologien du XIIe siècle. Vous interprétez l'herméneutique. Voyez bien, toute connaissance historique repose sur l'herméneutique. Vous ne lisez pas de la même façon, si vous êtes très intelligent, le document, le même document, que quelqu'un qui ne connaît pas très bien. Il y a tout de suite une vision différente. Oui. C'est très important de voir ça. La connaissance historique est toujours accompagnée d'une connaissance d'interprétation. Toute connaissance historique. Donc, elle ne vous fait pas toucher directement le point de vue de la réalité. Il y a l'interprétation entre les deux. Et grâce à l'interprétation, vous atteignez le réel. Que vous avez transformé par l'interprétation. Alors, ce qui m'intéresse, moi, au point de vue philosophique ici, c'est de voir que toute réalité en devenir que j'expérimente, ce monde physique, est un monde entièrement en devenir, dont la réalité dépend de son devenir. c'est vrai, il existe dans le devenir et il n'existe pas en dehors du devenir. Je l'expérimente de cette façon que je touche son écorce, sa manifestation, son côté sensible. Et mon intelligence saisit son être. Il est. Mais il est en devenir. Tout de suite, je corrige. Hein. Je peux distinguer les deux. Je vois très bien qu'il n'existe que dans le devenir. Si le devenir change de telle façon qu'il se corrompt, il n'existe plus. Donc, son existence est distinguée par l'intelligence qui le distingue de son devenir. Mais je dois tout de suite ajouter que son être est entièrement lié à son devenir. Il n'existe plus quand son devenir n'existe plus. Son être varie avec son devenir. Tout le monde physique est un monde qui est lié au devenir, qui est dépendant du devenir. Chez le vivant, il y a quelque chose qui demeure au-delà du devenir. L'immanence du vivant. Le vivant absorbe le monde extérieur pour qu'il devienne un monde intérieur. Alors, le vivant vit d'un monde intérieur. Ah, ce monde intérieur, est-ce qu'il est? Est-ce qu'il existe indépendamment du devenir? Autrement dit, y a-t-il quelque chose entre l'être et le devenir qui est la vie? Je dois me poser la question. Je me pose le point de vue de l'être en acte. J'ai vu que pour le vivant, l'être en acte était toujours immanent. Donc, chez le vivant, il y a une immanence qui n'existe pas dans le monde physique. Mais cette immanence, elle est dépendante essentiellement du devenir. Cette immanence ne demeure pas en dehors du devenir. Elle existe dans le devenir, cette immanence. Donc, il n'y a pas d'intermédiaire entre l'être et le devenir, qui serait le vivant. Oui. Qui serait une troisième manière d'exister. Est-ce que l'être est être et devenir? Ou c'est être, vivant, devenir? Le vivant, en réalité, existe dans le devenir quand il s'agit du vivant biologique. Il ne vit pas en dehors. Donc, quand il meurt, c'est non seulement la vie qui s'arrête, mais c'est son être. Il n'y aura pas de distinction entre le point de vue de sa vie et de son être. La distinction être et devenir est une distinction fondamentale, capitale, qui fait que chez le vivant, il y aura une intériorité, une immanence qui fera que son devenir continue au-delà des apparences. Mais ce sera encore un être en devenir. Je dirais que c'est le devenir qui change, mais ce n'est pas l'être. C'est un devenir qui implique une immanence. Et nous avons le même problème. Je saisis le devenir immanent du vivant. Ce devenir immanent du vivant, c'est un devenir au point de vue de son être. Et je saisis l'être à travers ce devenir physique ou ce devenir vivant. Et je saisis quelque chose qui résiste, qui est au-delà du devenir et qui peut exister au-delà du devenir.